Espace 2, Jean-Luc Rider.
Bonjour. Aujourd'hui encore, je vous propose de vous plonger dans un atelier Renaissance. C'est à Gruyère. Musique en mémoire.
Musique en mémoire.
Vous avez pu visiter le château,
oui.
Denis Rosenblatt.
Oui, oui.
On est juste devant le chemin de ronde ici du château de Gruyère pour cette interview. C'est un plaisir, bien sûr, avec ce paysage. On est en pleine campagne, presque,
oui,
puisqu'il n'y a
oui.
pas de bruit. Après, juste votre concert, qui était vraiment un concert de cabaret. Donc, je sors du cabaret.
Oui,
là, on est encore
ça.
Emballé. Vous êtes peut-être un peu fatigué parce que vous avez beaucoup, vous êtes beaucoup démené pendant cette heure de concert. Cabaret Renaissance. Je ne sais pas si le mot cabaret existait à la Renaissance, mais c'est
non.
tout à fait un spectacle dans ce sens-là. Donc, on s'amuse, on rigole tout le long. C'est un spectacle à la fois qui puise ses racines donc, dans la Renaissance, mais qui est adapté à un public d'aujourd'hui.
Oui, donc cabaret, évidemment, le mot n'existe pas, mais par contre, la musique était toujours faite dans des circonstances qui n'étaient pas du tout les circonstances de concert, hein, qui sont une invention du 19e, et on le voit très bien par les tableaux, et d'ailleurs par la littérature, que la musique était toujours faite dans un espace convivial. Alors, c'est très souvent les jardins, on voit très souvent des musiciens dans les jardins, très souvent associés au plaisir de la table, bien sûr, mais aussi associés au plaisir de la chair, on peut dire, parce qu'on voit aussi très souvent des courtisanes entourées de musiciens, on voit très souvent des scènes assez sensuelles, il suffit de penser à la Vénus d'Urbain de Titien, où on voit un organiste qui joue à côté d'une femme nue. Donc la musique, elle est toujours associée au plaisir et tous les plaisirs de la vie.
Mais ça, ce n'est pas des allégories picturales? Vous pensez que c'était vraiment comme ça dans la vie du XVIe siècle, du siècle de Rabelais?
Ben, on sait par exemple que, pour parler des courtisanes, et donc pour parler de la ville des courtisanes qui était Venise, hein, que tous les musiciens de Venise fréquentaient les courtisanes, parce que c'était quasiment une institution à Venise. Et on a plein d'histoires assez croquignolesques de certains musiciens qui, ne voulant pas payer les courtisanes, les payaient en chansons. Il y a eu toute sorte de scandale d'ailleurs à Venise à cause de ça. Et puis on sait aussi que parmi l'éducation des courtisanes, je parle de celle de haut rang bien sûr, la musique tenait une place importante. Et ça, d'ailleurs l'Aretin dans des ouvrages qui sont très croquignolesques, qui sont l'éducation de la pipa et de la nena, qui sont l'éducation d'une jeune courtisane par sa mère. Sa mère lui explique bien qu'il faut qu'elle joue du luth et qu'elle connaisse bien les dernières chansonnettes à la mode pour plaire aux galants.
Bonjour David Mestri.
Bonjour Jean-Luc.
Au cœur de Gruyère, en compagnie de Denis Rézin-Dadre, qu'on connaît comme le chef de l'ensemble Douce Mémoire, un ensemble important dans l'échiquier de ses interprétations renaissantes, hein, et puis Denis Rézin-Dadre, un des animateurs des ateliers de Gruyère.
Voilà, il est flûtiste, il joue différents instruments à hanches dans cet ensemble. Il est l'un des grands spécialistes du XVIe siècle, on dirait qu'il y a vécu. Et toute cette émission, je vous propose de m'entretenir avec lui pour mieux connaître donc à la fois ses musiques de danse, à la fois ce programme de cabaret qu'il donnait en récital donc avec quatre autres membres de son ensemble. Cabaret La Dive Bouteille autour des textes de Rabelais. C'était un spectacle tout à fait plaisant
oui.
qui a mis un terme à cette semaine de festivité à l'enseigne de l'atelier de musique ancienne de Gruyère.
C'est un peu tôt encore pour l'apéro, David Mestri, mais on rejoint Denis Rézin-Dadre pour nous parler de ses enjeux renaissants.
Moi, j'ai été frotté au théâtre depuis longtemps. Et puis, on a un metteur en scène associé, la Philippe Valpin, qui est vraiment associé à l'ensemble. Je dirais que quoi qu'on fasse, il y a toujours cet aspect-là. Même dans les musiques les plus sérieuses, les plus savantes, les plus secrètes, comme par exemple des Requiem, il y a toujours un aspect mise en scène. On est très soucieux. Je dirais que toutes les personnes de l'ensemble sont soucieux de la présentation, hein, ce qu'on appelait à l'époque baroque d'ailleurs l'actio dans la rhétorique, hein, le moment où on présente, dans le sens où on est soucieux des gestes, des attitudes. Alors, je vous dis, même dans les programmes sacrés, il y a cette présence-là. Et puis, bon, c'est vrai que c'est extrêmement agréable de faire des spectacles légers, très vivants, très, très joyeux, très théâtral, pour le public d'aujourd'hui aussi. Ça permet de passer un certain nombre de musiques qui n'auraient pas de raison d'être en concert, finalement, alors que là, elles passent magnifiquement bien. Et nous, ça rend une diversité dans notre métier. Hein, parce que moi, je peux vraiment passer le mercredi, faire des leçons de ténèbres, des concerts les plus sombres qu'on fasse, le jeudi, une Yves Bouteille, pour passer deux jours après dans Les Dames de Ferrare, qui est la musique la plus complexe qu'on ait jamais faite. Donc ça, c'est aussi ça fait que mon métier est incroyablement varié.
Et je pense que votre public aussi, alors parce que c'est une façon de joindre un public, quand on dit musique de leur naissance, pour des gens qui sont des auditeurs d'une radio culturelle et musicale comme la nôtre, on imagine quelque chose de barbant. Et ce que vous venez de jouer là, c'est le contraire.
Non, mais la Renaissance est tout sauf barbante, parce que c'est une période d'une immense énergie. Il ne faut pas oublier, hein, comme que c'est une époque qui a inventé le capitalisme. C'est une époque qui a découvert tant et tant de choses, hein, évidemment l'Amérique, mais bien sûr aussi toutes sortes d'inventions, l'imprimerie en particulier. C'est une époque incroyablement vivante, pleine d'énergie. Ce n'est pas une période où on doute. On doutera après avec les guerres de religion, mais la première Renaissance est une période d'une vigueur incroyable. Et cet espoir, c'est la Renaissance aussi, hein, c'est la conviction qu'on va vers des temps, vers un nouvel âge d'or, fait que la musique aussi est incroyablement pleine de vigueur. Hein. Et les textes aussi. Pour parler de la France, l'Académie française n'est pas passée par là encore, c'est-à-dire qu'on n'a pas réparti le français entre bas et haut. Hein, c'est-à-dire un beau langage et un langage qui ne serait pas respectable. Hein. L'Académie française a fait quand même un grand toilettage dans la langue française. Et la langue de Rabelais est une des langues les plus extraordinaires qui soit, d'une inventivité fantastique. C'est d'un jeu permanent. Et d'ailleurs, on retrouve ça actuellement dans les auteurs contemporains, hein, où on joue aussi beaucoup avec la langue et avec une grande admiration chez les auteurs contemporains, d'ailleurs, pour cette langue du XVIe.
Une autre question à propos de ce XVIe siècle, c'est le lien qu'il y a, vous l'avez évoqué un petit peu, Denis Rezindad, entre cette musique sacrée et la musique profane. Aujourd'hui, il y a un grand fossé entre les deux. On imagine une musique sacrée un peu avec la componction nécessaire. Et au XVIe siècle, chez Rabelais notamment, ça se voit aussi, on passe facilement de l'une à l'autre. Il y a quand même une frontière, il y a quand même une certaine provocation à aborder la musique sacrée, ou comme le fait Rabelais par exemple.
Alors c'est complexe. Déjà Rabelais, faut pas oublier qu'il était prêtre. Hein. Ça me semble absolument incroyable. Hein. On est dans un siècle de croyance. Hein. Les gens croient. Hein. On n'est pas du tout dans le 18e, hein, où il y a encore des gens qui se déclarent pas athées, mais qui le sont vraiment. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Au 16e, on est croyant.
Même dans les cours, chez les nobles.
Oui, oui, je pense que la question ne se pose pas encore. Enfin, vraiment, oui, enfin, Dieu est quelque chose d'abord, enfin, bon, elle est tellement présente. Enfin, la religion est présente à tout acte. Enfin, le roi va à la messe tous les jours. Hein. C'est impensable qu'un roi de France ne fasse pas ça, par exemple. Donc, il y a ça. Ce qui explique par ailleurs, d'ailleurs, la qualité extraordinaire, je trouve, de la musique religieuse du XVIe siècle, parce que c'est une musique qui n'est pas à la gloire de l'Église, mais qui est souvent à la gloire de Dieu, vraiment. C'est-à-dire que les gens sont croyants. Et il y a une musique extrêmement bouleversante, je trouve, à la Renaissance, que cette musique sacrée est vraiment une musique qui sert le culte, hein, qui ne sert pas les ors. Comme ça peut être le cas de la musique versaillaise, par exemple, qui n'est plus du tout une musique, je trouve, qui a un sentiment religieux, mais qui sert la gloire de Louis XIV. Alors il y a ça, et on passe d'un univers profane à un univers sacré sans aucun problème, mais vraiment extrêmement facilement. Mais tout simplement, je crois, parce qu'il n'y a pas de doute, justement. C'est-à-dire que, comme l'Église n'est pas du tout minoritaire, comme elle est totalement majoritaire à l'époque, on peut s'en moquer. Ce qui est un peu l'inverse d'aujourd'hui, où je trouve que dans les Églises, on voit ça un peu partout. Tout le monde se rétracte un peu, mais parce que, comme toute minorité, se sent sur la défensive. Hein. Ce n'est pas du tout le cas au XVIe. Je veux dire, ils ont tout le pouvoir. Enfin, l'Église n'a aucun problème. On peut se moquer d'elle. De toute façon, ils ont tous les pouvoirs. Donc voilà. Moi, je trouve qu'il y a une circulation comme ça très facile entre ces deux univers. Et il y a aussi le le fait qu'il n'y a pas de spécialisation, je crois. C'est-à-dire qu'un homme comme Rabelais, peut-être un des plus grands intellectuels de son temps, parce qu'il ne faut pas oublier ça, c'est que Rabelais, c'est quand même un immense intellectuel. C'est quand même quelqu'un qui est frotté de grec et d'hébreu et de latin, qui correspond avec les plus beaux esprits de son temps, comme Erasme, mais qui en même temps écrit des gaudrioles invraisemblables. Parce que quand il écrit les pronostications, là, qui sont des sortes d'almanachs complètement ridicules, mais c'est inimaginable aujourd'hui qu'un grand intellectuel de cette envergure écrive des choses qui soient de l'ordre, je sais pas, de Télé 7 jours. Enfin, c'est vraiment ça. Hein. C'est un spectacle qu'on avait créé pour une demande dans des pays de l'Est. On l'a tourné dans des pays tout à fait étonnants comme l'Albanie, comme évidemment la Croatie, la Macédoine, etc. Et puis on n'avait pas du tout prévu qu'il ait cette vie. En fait, comme il a tellement plu, on n'arrête pas de nous le demander. Alors il y a 9 ans que ce spectacle tourne, ce qui est quand même invraisemblable, parce qu'on n'a vraiment rien fait pour qu'il tourne. Mais il nous est régulièrement, très régulièrement demandé, et on l'a fait vraiment dans tous les coins du monde, et dans des conditions toujours très divers. Ça peut être en plein air, on l'a fait dans un ancien hammam, je me rappelle, en Macédoine, on l'a fait dans des restaurants, on l'a fait chez Bocuse à Lyon. Vous pouvez pas imaginer dans quel contexte on l'a fait, ce truc-là.
Et devant des publics non francophones, alors, dans l'Europe de
l'Est? Oui, on l'a fait dans des publics non francophones, on l'a fait beaucoup aussi en Espagne, on l'a même fait dans les Canaries, je me rappelle, on avait traduit, le texte était traduit non pas en espagnol, mais dans la langue qu'on parlait là-bas. Oui.
Donc vous aviez un comédien qui lisait les langues originales.
Oui, oui.
Et puis vous terminez avec une fricassée qui est un très joli morceau où on mélange, expliquez-nous peut-être un peu, on mélange toutes les chansons qu'on connaît de l'époque où le public a du plaisir à reconnaître un ou l'autre des airs que vous proposez.
Voilà, ça c'est un grand jeu qui avait cours en effet au XVIe siècle, la fricassée de chansons. Alors ça consiste en quoi? Ça consiste à mettre des quantités d'incipits de début de chansons de façon à ce que les auditeurs la reconnaissent, mais tous les chanteurs changent des choses différentes. C'est-à-dire, quand il y a 4 voix, il y a des tas de choses qui superposent, qui n'ont strictement rien à voir, mais on entend un petit bout de ceci au ténor, un autre bout au soprano, etc. Et quelquefois, il y avait même encore pire, il y a une fricassée lyonnaise dans laquelle il y a 100 chansons, ce qui est vraiment un challenge incroyable. Et pendant ce temps-là, la basse, elle, chante seulement un thème qui est un thème, religieux, mais sur lequel ils ont mis des paroles absolument obscènes. Donc c'est un thème de Salve Regina, et le basse chante « Viens ici, Perrette, ton cul me servira de trompette ». C'est vous dire le mélange entre sacré et profane.
Le mélange, finalement, c'est une des caractéristiques, en tout cas de ce qu'on connaît, de ce siècle XVIe, de la Renaissance.
Oui, la non-spécialisation, par exemple à la cour de France aussi, la non-componction. Hein, on est encore dans une époque où les rapports des nobles avec les rois sont des rapports extrêmement libres. Hein, on n'a pas encore inventé l'étiquette de la cour. Une ouverture d'esprit absolument incroyable, hein, parce qu'on voit François Ier, la jeunesse de François Ier, n'oublions pas qu'il a pris le pouvoir à 20 ans, hein, ce qui semble extraordinaire aujourd'hui. Un roi à 20 ans, 1515, il avait 20 ans, qui s'entoure des plus beaux esprits de l'époque, qui arrive à imposer l'étude de l'hébreu, du grec, de l'hébreu à la Sorbonne qui était absolument contre. On voit des esprits magnifiques comme Érasme qui combat l'intolérance. C'est un siècle, moi vraiment, le mot qui revient sans cesse pour moi, c'est l'énergie et l'optimisme. C'est un siècle d'énergie et d'optimisme.
Une autre des parties qui a eu beaucoup de succès dans votre spectacle, Denis Rézindâtre, c'est le bestiaire. Ça, c'est aussi un passage obligé de ces spectacles. On imite des bruits d'animaux. Ça a du succès aujourd'hui comme hier.
Oui, très certainement. Tout simplement parce qu'une des activités vraiment emblématiques, favorites et quasiment obligatoires de la noblesse, ça durait d'ailleurs fort longtemps, hein, même encore de nos jours, était la chasse, bien sûr. Donc, les nobles étaient sans arrêt confrontés à la nature. D'abord parce que beaucoup de rois étaient des rois d'extérieur et pas des rois d'intérieur. Par exemple, on sait que François Ier, qui était un géant à son époque, puisqu'il faisait 1m90, ce qui est tout à fait exceptionnel pour son époque, était quelqu'un qui passait sa vie à cheval, qui passait son temps à chasser. Ils avaient une vie... C'était pas du tout des gens enfermés dans des bureaux, hein, on peut imaginer. Un autre qui était comme ça, un homme d'extérieur, c'était Henri IV, notre roi, notre bon roi Henri IV, qui a passé son temps sur un cheval. Hein. Et donc, en fait, ces gens étaient sans arrêt frottés à la nature. Il faut voir que la nature aussi, elle n'était pas comme aujourd'hui, repoussée loin des villes, elle faisait partie permanente du contact qu'ils pouvaient avoir. Et donc, il y a sans arrêt des imitations d'animaux dans, évidemment, dans la musique du 16e. Et par ailleurs, il y a évidemment des symboliques, on les imite, mais aussi des fameuses symboliques, le coq, c'est le symbole de la virilité masculine, donc ça, il y en a plein dans la musique, des coqs, et bien sûr. Et puis les oiseaux, bien sûr, des imitations d'oiseaux très souvent.
C'est important cette idée du nomadisme des nobles et des rois et de la cour jusqu'à Louis XIV finalement. C'est qu'avec la construction de Versailles que la royauté française s'installe, se sédentarise.
Oui, le nomadisme, c'était aussi une raison politique. Il fallait absolument que les rois aillent visiter leurs sujets. Et un des rares moyens, évidemment, de le faire, c'était de se promener à travers le royaume. Il faut savoir aussi que les châteaux n'étaient pas installés. On se promenait avec tous ces meubles, puisqu'on entrait dans des châteaux qui étaient vides. Un Chambord est resté vide. Hein. C'est pour ça dire qu'il n'y a quasiment plus rien dedans. Mais il était vide, on arrivait avec armes et bagages. Donc là oui, les cours étaient sans arrêt nomades. On a des descriptions très précises de ça par les contes, hein, parce qu'on a beaucoup de contes de tout ça. Mais il y a aussi une chose qu'on oublie un peu, c'est qu'on avait les règlements de la chapelle royale, c'est-à-dire des chanteurs qui assuraient le service divin. Et tous ces chanteurs-là devaient suivre le roi, même sur les champs de bataille. Hein. C'est-à-dire quand il y avait une guerre, la chapelle était là, un peu en retrait, il ne se faisait quand même pas tirer dessus. Ceux qui pouvaient se faire tirer dessus, c'était par contre les tambours et fifres qui accompagnaient à la guerre. Hein. Il faut savoir qu'il y avait de la musique sur les champs de bataille, qui d'ailleurs avait une raison aussi, parce que ça permettait de guider les armées par le son. Mais la chapelle royale était là et devait y suivre le roi partout, bien sûr. L'itinérance est quelque chose d'absolument vraiment représentatif de la cour de France. Oui.
Donc c'était des caravanes gigantesques, on pense.
Ah oui. Sans doute d'un assez grand inconfort. On n'imagine pas comment ces gens-là vivaient, de caravanes gigantesques. Quelquefois, je me plais à rêver et l'impression que ça devait donné d'ailleurs sur les bourgeois et sur les paysans de voir arriver ces caravanes. Et aussi on a des descriptions très précises des fameuses entrées royales, hein, parce que c'est évidemment quand ils arrivaient, on leur faisait des entrées, donc spectacles, etc. On ne pouvait pas arriver d'une ville comme ça, hein. Il y avait toutes sortes de spectacles pour accueillir la cour, donc d'où les fameuses entrées royales.
Quel était le degré de séparation des classes dans ce 16e siècle, par exemple? Est-ce que la danse populaire est proche de la danse des cours? Est-ce qu'il y a déjà une grande inaccessibilité, impossibilité de monter l'échelle sociale? Est-ce qu'il y a des relations d'amitié ou de bonnes relations entre le bas peuple et les nobles?
Je crois que c'est une des caractéristiques, c'est justement c'est la circulation. Il y a une circulation entre un espace populaire et un espace noble. Elle est très sensible dans le domaine que je connais, qui est la musique, puisque, par exemple, il y a eu un très grand intérêt au début du XVIe siècle pour ce qu'on appelle la chanson rustique. La noblesse, on a eu un peu assez de la musique extraordinairement complexe du XVe siècle et de la poésie du XVe siècle. Et les musiciens ont inventé ce qu'on appelait la chanson rustique, qui consistait à prendre un thème totalement populaire de chansons qu'ils devaient entendre, que pouvaient chanter les bergers, les bergères hein, dans les prés, et de la mettre au sein d'une polyphonie, ensuite d'avoir des paroles qui étaient aussi d'une poésie beaucoup plus simple. Le XVIe siècle est une époque d'invention d'une poésie, en tout cas pour la France, beaucoup plus facile d'accès, ce qu'on appelle aussi beaucoup les dizains, donc des chansons en dix vers, hein, avec des formes qui ne sont pas des formes compliquées comme étaient pour le cas les bergerettes et les rondeaux, tout ce qui existe au XVe. Donc il y avait un grand intérêt à ça. Il y a aussi un certain nombre de messes au XVIe siècle qui sont écrites sur des thèmes populaires. Hein, absolument, la messe Ramenez-moi la cheminée ou la messe Voici l'ami Margot, etc., qui étaient souvent des chansons d'origine populaire. Donc je crois qu'il y a vraiment une forte circulation. On sait par exemple que les farceurs qui proposaient des farces extrêmement quand même gaudriolesques dans tous les villes et les villages de France étaient accueillis à la cour et que François Ier pouvait se délecter à la fois de lecture de très haut vol des intellectuels de son temps, mais aussi rire aux pitreries de Rabelais et aussi des farces des farceurs. Donc je crois que c'est encore une fois cette séparation entre le haut et le bas, qui est une des caractéristiques, je crois, de l'époque baroque, n'avait pas du tout existence au XVIe siècle. Il y a une circulation permanente entre ces deux classes.
Mais aussi dans l'autre sens, parce que vous parliez tout à l'heure de la Sorbonne et des études de grec et de latin, la culture était accessible à tout le monde ou c'était quand même un moyen de barrage social ?
Non, elle n'était pas accessible, bien sûr, parce que bon, il faut pas oublier qu'à cette époque, il y a d'abord une immense partie de la France qui ne parle pas français. Hein, le français est comme réservé à qu'une élite. Hein, les gens parlent encore tous les patois. C'est la première chose. La seconde, c'est que la majorité, quand même aussi, de toute l'Europe est analphabète. Hein, comme les gens ne savent ni lire ni écrire. Ce qui va changer, c'est l'émergence d'une nouvelle classe sociale, qui est la bourgeoisie. Ça, c'est le XVIe siècle, hein, cette grande émergence de la bourgeoisie, qui va vouloir singer la noblesse et donc s'approprier un certain nombre de caractéristiques de la noblesse, donc en particulier la musique. Et c'est d'où l'invention d'ailleurs de l'imprimerie musicale qui permet à la bourgeoisie d'avoir accès à la musique, parce qu'il ne faut pas oublier que les manuscrits étaient très 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 chers, qu'avoir un manuscrit de musique était vraiment un luxe comme avoir, je sais pas, une Alfa Romeo aujourd'hui, un peu ça. D'ailleurs, un cadeau de mariage au XVe siècle était d'offrir un manuscrit. On oublie ça, c'est qu'il y a de magnifiques manuscrits de musique qui sont offerts en cadeau de mariage. Vous vous rendez compte ce que c'est qu'un mariage princier. Donc ça devait être des cadeaux extraordinairement coûteux. Parce qu'un scribe, pour recopier une partition de musique, devait mettre des mois. En plus, c'était enluminé, etc. Bon, ça devait être très cher. Et alors, l'imprimerie musicale va permettre justement de faire rentrer la musique dans des milieux moins argentés, qui sont les milieux de la bourgeoisie, hein, qui commence à avoir de l'argent, mais pas au niveau de la noblesse, bien sûr, et qui va pouvoir du coup aussi faire de la musique. Et d'où aussi le développement des premières méthodes de musique. On a, à cette époque-là, des méthodes de musique assez courtes qui résument le solfège de l'époque, qui était assez compliqué, et puis comment jouer du luth, comment jouer de la guitare, de la flûte à neuf trous, etc. On en a un certain nombre en France comme ça.
Et aussi des méthodes de danse. Alors, celle de Toineau Arbeau apparaît à la fin du XVIe siècle.
Et bien sûr, des méthodes de danse. Hein. Il y en avait eu au XVe siècle en manuscrit pour la noblesse, mais on a justement à la fin du XVIe cette fameuse méthode de Toineau Arbeau. Et alors justement cette circulation entre populaire et noble se retrouve dans le bal de la cour, puisque le bal commence par des branles, qui sont des danses extrêmement de village. Hein. D'ailleurs, c'est un peu les danses qu'on voit dans la peinture flamande. Hein. On voit toujours ces gens qui se donnent la main et qui dansent en rond. Ce sont des branles. Et ben, on commençait le bal à la cour par des branles.
Dans ce château de Gruyère qui est derrière nous, Denis Rézin-Dadre vient de se terminer ce stage de lutherie qui a fait construire deux guitares que vous avez peut-être vu, ce que vous avez pu visiter.
Je vais voir, oui, c'est magnifique. C'est absolument magnifique ce qu'ils font.
Et deux guitares donc, qui serviraient à des musiciens tels que ceux de Douce Mémoire. Ouais. Quel est votre intérêt, Denis Rézin-Dadre, à cette fabrication des instruments?
Écoutez, il y a très grand intérêt à Douce Mémoire, dont je ne suis pas le plus grand responsable, c'est-à-dire parce que moi je m'occupe de tas d'autres choses, mais j'ai plusieurs instrumentistes à Douce Mémoire qui sont passionnés par ça, et en particulier Jérémy Papasergio, qui est un bassoniste exceptionnel. Et ils ont, depuis 10 ans, je veux dire pendant 10 ans, ils ont pas harcelé parce qu'ils ont d'excellentes relations, mais ils sont beaucoup allés voir les facteurs. Ils leur ont demandé de faire des copies exactes des instruments qui se trouvent dans les musées. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est un peu difficile à comprendre peut-être pour les auditeurs, mais il y a eu beaucoup de copies qui ont été faites qui ne sont pas des copies exactes, c'est-à-dire qui ont été un peu adaptées aux musiciens modernes. Parce que si vous voulez, quand un musicien moderne, par exemple, qui a fait, je sais pas, 10 ans de hautbois ou 10 ans de basson moderne ou que sais-je, 10 ans de piano, est confronté avec un instrument ancien, il se dit mais c'est quoi ce machin, ça marche pas comme ça devrait marcher. Et il demande au facteur en fait d'améliorer, entre guillemets. Cette amélioration, en général, change complètement les caractéristiques de l'instrument. Je crois qu'il faut être très humble devant ces instruments anciens, les copier exactement et se dire voilà, ça c'est l'instrument, comment ça marchait. Et le fait d'avoir fait ça nous a permis de retrouver les timbres précis de cette époque-là qui sont en effet différents des timbres d'aujourd'hui. Par exemple, les instruments avant sont beaucoup plus clairs que ce qu'on aime aujourd'hui, très puissants. Et surtout, nous a permis de trouver les vrais diapasons. Parce que la grande problématique, c'est qu'on joue aujourd'hui avec un diapason à 440 Hz, qui est une décision qui date de l'après-guerre. Enfin, c'est-à-dire que dans le monde entier, maintenant, que ce soit à Tokyo ou à Londres, vous jouez à 440. Mais bien évidemment, au XVIe siècle, on ne jouait pas à 440 Hz. Et si vous prenez le diapason moderne pour jouer de la musique de la Renaissance, ça perturbe beaucoup, évidemment, la couleur, mais aussi pour les chanteurs. Donc par exemple, la Dive Bouteille, on l'a fait à 464 Hz, donc un demi-ton au-dessus. Mais pourquoi? Mais tout simplement parce que les instruments avant, quand vous les copiez exactement, sans demander au facteur de l'arranger, il arrive à ce diapason-là. Et donc nous, doucement, on joue avec 4 diapasons différents.
Et le ténor, Hugues Primard, ne vous a pas voulu de jouer aussi haut?
Ah non, mais non seulement il fait ça, mais dans deux jours, on va faire un concert, et il sera à 392, un diapason très bas, il peut être à 415. Et...
Il accorde ses cordes vocales.
Oui, Dieu merci, il n'a pas l'oreille absolue, parce que cette idée de l'oreille absolue est une idée très moderne. Mais nous, on a des différences de diapason qui vont jusqu'à la quarte, ce qui est absolument phénoménal, c'est énorme. C'est-à-dire qu'un do peut être un fa, et un fa peut être un do.
Je vous ai vu sortir de scène tout à l'heure avec votre beau costume Renaissance, votre chapeau à plumes et sous les bras environ 6 instruments de la famille des bombardes, des flûtes. Et comment est-ce que vous les choisissez? Vous trouvez des bons facteurs aujourd'hui? C'est des copies vraiment d'anciens très, très authentiques, comme vous l'expliquez.
Oui, exactement. On travaille avec un certain nombre de facteurs qui sont devenus au fil du temps des amis et qui sont en plus très intéressés par ce qu'on leur demande, parce qu'on leur demande des choses qui, évidemment, les stimulent. Par exemple, on a fait copier les flûtes qui sont conservées au musée des instruments à Paris, hein, et qui sont des flûtes colonnes extravagantes, dont il n'en reste que deux au monde. Et j'ai demandé au musée de les copier de toute façon, vraiment sans rien y toucher. Et on est arrivé à des flûtes incroyables qui sont à un diapason extrêmement bas, 392 Hz. Et voilà, c'est un peu grâce à Doucemar que maintenant les copies ont été faites. Hein. On passe son temps à dire au facteur, tu devrais t'intéresser à ce bout de bois-là qui n'est peut-être pas en très bon état dans ce musée et voir ce que ça va donner quand tu l'auras pu copier exactement. Donc on est sans arrêt sur la brèche pour copier des instruments. Oui.
Quand vous avez un nouvel instrument, vous devez réapprendre à jouer ?
C'est les doigtés qui changent souvent, oui. Oui. Ça, il faut être très habile. C'est pas une musique, si vous voulez, on n'est pas obligé de faire de la virtuosité comme un violoniste qui serait obligé de faire le grand répertoire extrêmement difficile, ou un pianiste qui devrait jouer les concertos de Rachmaninoff et autres. Hein. Notre difficulté de notre métier, elle n'est pas là. On n'a pas un répertoire d'une difficulté évidemment égale au grand répertoire difficile et très virtuose du 19e. Notre difficulté à nous, c'est l'adaptation. C'est d'arriver à jouer plusieurs instruments, s'adapter à des instruments extrêmement différents et jouer par cœur. Orné aussi, parce que c'est la musique où on rajoute beaucoup de choses. Donc voilà, la difficulté de notre métier, elle est là, surtout.
Donc vous aviez des flûtes à bec, ça, on les connaît. Hein. Les flûtes Renaissance sont d'une seule pièce, vous me corrigez si je me trompe, en général.
Oui, elles sont en général d'une seule pièce. Surtout, elles ont un ambitus, c'est-à-dire qu'elles ont moins de notes que les flûtes baroques. Elles ont deux notes ou trois notes de moins, mais elles sont beaucoup plus puissantes dans le grave. Et elles sont souvent des instruments qui sont faits pour être joués en ensemble, parce que la Renaissance, c'est vraiment une époque où on a beaucoup pratiqué le jeu d'ensemble. C'est-à-dire qu'il y avait des familles d'instruments, familles de flûtes, familles de bassons, familles de bombardes, etc. Et ensuite, on a sélectionné dans ces familles les instruments qui semblaient les plus aptes à faire du solo. C'est pour ça que la flûte à bec baroque, c'est la flûte en fa. On n'en joue quasiment plus qu'une ou deux. Mais avant, à l'époque Renaissance, on jouait beaucoup en ensemble, avec 6, 7, 8, 10 flûtes.
Et les autres instruments à hanches que vous aviez, alors décrivez-les-nous, Denis Rezindade.
Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui la bombarde, mais qu'on appelait à l'époque le grand hautbois, était un instrument à vent avec une hanche extrêmement puissante qui a été très jouée dans toute l'Europe, mais dans des circonstances particulières qui étaient les circonstances de l'accompagnement de personnages importants. C'est un instrument qui symbolise le pouvoir, ce qui va devenir l'inverse après, hein, puisque les instruments qui vont symboliser le pouvoir vont être au contraire des instruments plus doux. Il y a un renversement total, hein, c'est-à-dire que les instruments de la cour de Louis XIV, qui sont les instruments importants, c'est le clavecin, c'est la viole de gambe, sont des instruments nobles, et alors que ces instruments-là vont devenir les instruments des mendiants, des gueux et autres. Hein. Mais au 15e, au 16e, ce sont les instruments nobles, ce sont les instruments puissants. Et puis, l'autre instrument que j'ai joué, c'est ce qu'on appelle une doucenne, c'est un basson, je jouais un petit basson en Renaissance, un instrument qui était très employé en Espagne pour doubler les voix, et dont il existe toute une famille, dont il ne subsistera plus que la basse, qui deviendra le fagotto, qui deviendra ensuite le basson moderne.
Il y avait un petit instrument assez amusant dans ce spectacle, c'est le tourne-bout, qui ressemble à une sorte de tuba, mais pas l'instrument, le tuba du plongeur, qui est en bois clair. C'est un instrument à hanches aussi.
Ça fait partie de ces instruments à hanches qui est encapsulé, c'est-à-dire que l'instrumentiste n'a pas l'anche dans les lèvres, hein, il souffle dans un tube et fait vibrer l'anche, donc il n'a aucune action sur l'anche, donc ça fait un son qui est un peu droit. C'est un instrument qui a été très usité au 15e, qu'on trouve très souvent dans les tableaux. Si on regarde de près, il y a beaucoup de conversations sacrées dans lesquelles des anges jouent cet instrument, qui s'appelait storte en Italie, c'est-à-dire tordu, qui s'appelait tournebout en France, le bout qui tourne, qui s'appelle krumhorn, en Allemagne, et donc d'où Cromorne, on emploie le terme Cromorne, et qui a donné le jeu de Cromorne dans l'orgue aussi.
Hein. Et Rabelais en parle dans ses ouvrages ?
Oui, parce qu'évidemment, l'instrument fait rigoler, enfin l'instrument fait rire, parce qu'il est un peu drôle à voir. Mais Rabelais surtout parle beaucoup de musique, parce que Rabelais était très au courant de la musique. Je pense d'abord parce qu'il a fréquenté beaucoup le milieu des imprimeurs de musique à Lyon, quand il a été à Lyon, il a séjourné plusieurs années à Lyon, et on sait qu'il a beaucoup fréquenté la rue Mercière, et la rue Mercière était la rue des imprimeurs, et donc il y allait bien sûr pour imprimer ses ouvrages, mais ces mêmes imprimeurs imprimaient aussi de la musique. Et on trouve énormément d'indications musicales dans l'œuvre de Rabelais, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des indications de solfège ancien, qu'il est très au courant du solfège, hein, quand il dit par exemple que les Parisiens sont sots par nature, par bémol et par bécard, il n'y a que les gens qui connaissent le système du solfège du XVIe siècle pour comprendre la plaisanterie. Et puis c'est rempli de débuts de chansons. Le texte de Rabelais est rempli de chansons en fait, qui devait évidemment faire tilt pour les gens de l'époque parce qu'ils connaissaient les chansons et qu'ils ne parlent plus aux gens d'aujourd'hui.
Et lui-même, il était probablement musicien, un homme de sa culture au XVIe siècle. Il jouait automatiquement d'un instrument, il chantait.
Oui, c'était quasiment obligatoire. Enfin, ça faisait partie de l'éducation de l'humaniste à l'époque. C'était presque mal vu en fait, de ne pas pouvoir... On disait tenir sa partie. Hein. Le pays où ça a été le plus développé, c'est l'Angleterre, où quelqu'un de la noblesse qui ne pouvait pas tenir sa partie dans un consort, un ensemble de viols, vraiment était comme, je ne sais pas, comment comparer comme quelqu'un de la bonne société d'aujourd'hui qui ne pourrait pas jouer au bridge un peu, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il était en fait exclu, si vous voulez. Parce que ben, quand on allait chez les gens, il y avait cet art de la conversation, bien sûr, mais il y avait aussi cet art de faire la musique à la maison, puisque évidemment la musique était faite à la maison, il n'y avait pas de disque. Et donc on disait, on sortait les instruments, et puis on disait, tiens, viens jouer avec nous. Il faut savoir aussi une chose, c'est que les instruments ne coûtaient pas cher, parce que le bois ne coûtait pas cher, la main-d'œuvre ne coûtait pas cher. Donc quelqu'un n'achetait pas une flûte, n'achetait pas une viole, il achetait 10 flûtes et 10 violes. Et donc vous pouviez à vos amis, vous n'avez pas besoin de leur dire amène ton instrument. Quand vous arriviez chez quelqu'un, il y avait tous les instruments pour faire la musique. Hein, c'est comme si vous voulez, je sais pas, vous voulez jouer un quatuor à cordes, il n'y a pas besoin d'amener votre violoncelle, votre violon, votre alto, c'est à la maison. Mais ça, c'est vraiment lié, je crois, aussi au fait que les instruments n'étaient pas très chers.
Qu'est-ce qu'on entend comme musique, David Mestri?
Ici, une page pour les viols de la grande tradition anglaise qu'évoquait, de la house music qu'évoquait Denis Rézindadre à la fin de cet entretien, musique d'Anthony Holborn.
Une semaine qui s'achève à Gruyère, David Mestri. D'un côté, la lutherie, de l'autre côté, ces stages de chorégraphie, de danse avec vos intervenants. Nous voilà dansant le branle comme personne et sachant désormais nous-mêmes taquiner la gaillarde, David Mestri. Mais on va retourner une dernière fois au château, on va ouvrir une porte, celle de l'année prochaine peut-être.
Celle de la salle des gardes, toujours, où a eu lieu cet atelier de lutherie avec Philippe Moterio qui nous évoque le programme qui nous attend. Il y aura peut-être aussi des échos de l'édition 2008 de cet atelier de musique ancienne de Gruyère.
Sous la conduite de Maurice Ottiger, luthier en guitare en Suisse, une guitare qui sera l'instrument que jouait Franz Schubert, donc un instrument qu'on appelle guitare romantique, une des toutes premières guitares à 6 cordes. Construite à Vienne dans l'atelier Stauffer. C'est le même luthier qui a construit l'arpeggione. Donc on a prévu une programmation avec la sonate arpeggione sur l'instrument, une réplique de l'instrument original.
Mais vous n'allez pas faire un arpeggione ici?
Non, ça c'est un petit peu trop ambitieux pour la semaine. On va faire vraiment la guitare de Stauffer, typique de cet atelier, qui est une guitare très moderne pour l'époque. Et puis les concerts seront autour de ce thème-là, guitare et musique de chambre, avec pianoforte, avec quatuor à cordes. Et puis à l'atelier, on va construire alors à plusieurs personnes, 5 ou 6 stagiaires, ensemble, un instrument, comme c'était le cas les précédentes éditions.
Et il y aura un arpeggione à Gruyère
Oui, je ne peux pas encore répondre tout à fait franchement oui, parce qu'il n'est pas terminé.
Mais c'est vous qui êtes en train de le construire, Philippe Timothée.
Voilà, c'est ça.
Thank you. Thank you.
De larges pages de cette sonate pour arpeggione de Franz Schubert, l'a interprétée au violoncelle par Jean-Guillain Queyras et au piano par Alexandre Tarot, pour conclure cette fois cette série d'émissions que nous vouions, je vous le rappelle, cette semaine à cet atelier Renaissance qui a eu lieu à Gruyère du 26 août au 2 septembre et auquel a assisté David Mestri. La semaine prochaine, un sujet très différent, nous nous poserons la question en nouvelle diffusion, sonate, que me veux-tu ? Et c'est le musicologue Philippe Albera qui donnera quelques éléments de réponse. Mais sachons déjà nous souvenir que cette émission peut compter sur l'assistance de production d'Isabelle Watson. Et cette semaine, c'est Christian Morero qui signe là la réalisation de cette proposition de Jean-Luc Rider.
Espace 2. Des copies de nos émissions au 026 323 24 24.
L'affaire vous intéresse ? Ça vous honore plutôt. Chaque émission de Musique en mémoire s'entend aussi la nuit dès minuit en nouvelle diffusion sur Espace 2. Mais nous, c'est donc bien lundi que nous avons rendez-vous avec cette question qui, entre-temps, vous taraudera pour le week-end, je l'espère. Sonate, comme veux-tu. D'ici là, je vous souhaite de très doux moments. Pourquoi pas ici ou là, justement, à l'écoute de nos programmes. Bye bye.
Espace 2, Catherine Buzer.
Bonjour à tous et bienvenue.
L'île au trésor.
C'est à l'âge de 19 ans que Sergueï Rachmaninov compose son fameux prélude en ut dièse mineur, une page dramatique et passionnée qui va remporter immédiatement un immense succès. Cette popularité n'était pas pour déplaire au compositeur qui la jouait volontiers au public, mais ce succès ne tarda pas à devenir plutôt embarrassant. Il n'y avait pas un concert où l'œuvre n'était pas réclamée, d'innombrables arrangements suivirent, y compris pour quatuor de trombone ou de banjo. Bref, un succès fou, et on comprend volontiers pourquoi le pianiste Eldar Nebolsin, qui signe chez Naxos un disque entièrement consacré au prélude de Rachmaninov, ouvre son programme avec cette page célèbre. Bien, nous allons nous faire plaisir et en faire de même.